Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, dépistage génétique, mieux vaut-il prédire que guérir ? Clap de fin pour la consultation des citoyens en vue de la révision des lois de bioéthique. L'appel à contribution lancé mi-janvier dans le cadre des états généraux de la bioéthique s'achève ce lundi. Mais tout reste à faire. D'abord la synthèse des discussions, un rapport sera remis au mois de juin. Puis l'écriture d'un projet de loi à l'automne prochain en vue de l'adoption d'un nouveau texte en 2019. Parmi les thématiques susceptibles de faire l'objet d'un changement législatif, il y a les examens génétiques. Des examens très encadrés en France, ils ne peuvent être autorisés qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique, par exemple dans le cadre d'un diagnostic prénatal. Leur but ? Révéler d'éventuelles mutations sur un ou plusieurs gènes, ce qui peut conduire à l'apparition de maladies. De tels examens posent une multitude de questions sur la nature des bénéficiaires, sur la nature des maladies recherchées et bien sûr sur l'utilisation des informations qui sont recueillies. Alors, ce sont des questions qui ne sont pas nouvelles, mais dont les réponses peuvent évoluer en fonction notamment des progrès de la médecine génomique. Alors, dépistage génétique, vaut-il mieux prédire que guérir ? C'est la question du soir en compagnie de deux invités, Ségolène Aimé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, généticienne et épidémiologiste, directrice de recherche émérite à l'INSERM, chargée de mission maladies rares à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et vous êtes par ailleurs la créatrice d'Orphanet, un site dédié aux maladies rares. Pour discuter avec vous, Cynthia Fleury, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe et psychanalyste, vous êtes professeur au CNAM, titulaire de la chaire Humanité et Santé, membre du CCNE, Comité Consultatif National d'Éthique. Vous avez été la co-rapporteure d'un rapport en 2016, Réflexion éthique, ça c'est le titre du rapport, Réflexion éthique sur l'évolution des tests génétiques liés au séquençage de l'ADN humain à très haut débit. Fin du titre.
Alors, on n'est pas très doué pour les titres.
Ça peut être peut-être plus ramassé. On va démarrer peut-être en faisant quand même un petit peu de pédagogie, en tout cas en posant une question qui peut sembler un petit peu assez banal, mais je vous la pose quand même, Ségolène Aimé. Ça sert à quoi de faire un examen, un test génétique ? D'ailleurs, examen génétique, test génétique, on peut dire que c'est la même chose.
Oui, bien sûr.
Ça sert à quoi ?
Alors, en médecine, ça sert à diagnostiquer les maladies génétiques. Donc, ça a une fonction très classique et ça rend de multiples services parce que quand on a une maladie grave ou un problème de santé, grave, on a envie de savoir pourquoi. Donc ça donne un nom à la maladie, ça dit quelle est la cause de la maladie, et ça dit aussi quel est le risque que d'autres personnes de la famille soient atteintes de cette maladie, et ça donne aussi le pouvoir éventuel de dépister cette maladie chez d'autres apparentés, ça donne la possibilité éventuellement, si les gens le veulent, peut-être d'organiser un diagnostic prénatal ou préimplantatoire. Donc ça ouvre des tas de possibilités d'agir sur des maladies où jusqu'à l'avènement des tests génétiques, on n'avait absolument rien à proposer aux familles. Donc ça a beaucoup de vertus.
Donc on peut dire que ça donne un certain nombre d'informations, Cynthia Fleury, qui permettent de prendre des décisions qui sont différentes en fonction du type de test qui va être mené et du moment où on va les mener.
Alors oui, alors ce qui a été dit et qui est important, c'est que déjà sortir de ce qu'on appelle l'errance diagnostique, ça fait partie déjà d'une certaine forme de cure. Je dis bien évidemment, ça vient pas parce que c'est une chose de nommer la maladie, ça participe du projet thérapeutique, mais et là c'est pas parce qu'on nomme la maladie qu'on va la guérir. Donc ça c'est, mais quand même, ça participe. Donc ça déjà c'est un point essentiel. Et puis après, effectivement, d'anticiper toute une série de choses avec la parentèle. Après, c'est pas si simple. C'est pas si simple de bien interpréter ce qui est donné, puisque vous avez des données brutes et puis vous avez l'interprétation de ces données. Et dans l'interprétation de ces données, entre le diagnostic et la prédiction, c'est pas du tout la même chose. Et puis, c'est pas parce qu'on vous donne des données qui sont relatives à un sujet, entre guillemets, aussi statisticien, que ça vous concerne vous. C'est-à-dire que vous avez à tel ou tel pourcentage, vous pouvez tel ou tel développer telle ou telle maladie, ça ne veut pas dire spécifiquement que vous la développerez. Donc, tout dépend, si vous voulez. Quand vous êtes diagnostiqué sur une maladie, c'est relativement intéressant. Mais c'est pas pour autant que vous avez la réponse à cette maladie. Quand, en revanche, vous avez des données incidentes, parce qu'on viendra en parler, là, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué parce que ces données incidentes, vous ne savez pas forcément quoi en faire, ni comment les partager avec autrui, etc., etc.
Est-ce qu'on peut dire que ces données incidentes, Ségolène Aimé, on les connaît de mieux en mieux aujourd'hui et ça permet d'avoir une probabilité pour le diagnostic de plus en plus affiné, disons ?
Alors, je vais répondre à votre question, mais avant, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit pour clarifier pour les auditeurs. Moi, j'ai parlé du diagnostic. Et le diagnostic, c'est quand l'anomalie génétique va causer automatiquement, avec une certitude, la maladie. Donc, on est vraiment là dans un acte médical simple de diagnostic. Après ça, on sait qu'il y a un certain nombre de maladies où il y a une petite contribution de la génétique à la survenue de la maladie, mais il y a bien d'autres facteurs environnementaux ou même liés à bien d'autres gènes et où finalement la génétique ne contribue qu'une petite part.
On peut prendre quoi comme exemple ? Certains cancers ? Ça peut entrer dans ce cadre-là ?
Oui, tout à fait. Certains cancers peuvent rentrer dans ce cadre-là. Les maladies auto-immunes rentrent tout à fait dans ça, mais aussi l'hypertension artérielle ou l'hypercholestérolémie, etc. Il y a des petits facteurs génétiques ou toutes les maladies rhumatismales, mais les gènes ne sont pas suffisants pour que la maladie se développe. Il y a par ailleurs d'autres événements. Et le test génétique va avoir déjà beaucoup moins de puissance puisqu'il ne va vous donner qu'une probabilité éventuelle de développer la maladie, mais sans vous en donner une certitude. Et on rentre dans une autre médecine qu'on connaît aussi très bien parce qu'on a beaucoup d'expérience, qui est cette médecine probabiliste où on a des facteurs de risque mais qui ne sont vrais qu'à l'échelon de la population. C'est-à-dire qu'on peut dire que vous avez 20% de risque de développer une maladie du foie, une maladie des reins, mais on ne peut pas vous dire si ça sera 100% pour vous ou 0% pour vous. C'est 20% pour la population générale.
Mais justement, cette médecine probabiliste, est-ce qu'elle est de plus en plus sûre, pointue, au fur et à mesure que la recherche avance?
Et non. Et moi, je vous dirais que non. Au sens où, oui, on peut de plus en plus mettre des noms de gènes derrière ces facteurs génétiques, mais pour autant, ça ne réduit pas l'incertitude qui est liée à l'intrinsèque de la survenue de ces maladies, qui est liée à un peu de génétique et beaucoup d'environnement. Et donc ça ne changera pas. Et on sait aussi très bien que les gens ont une attitude vis-à-vis d'un risque avéré qui est très variable d'un individu à l'autre, avec soit du déni parce que ça les ennuie de prendre des mesures de prévention, soit un oubli très vite, justement pour ne pas s'encombrer le cerveau, ou au contraire développe des angoisses exagérées. Donc c'est une médecine qui est très compliquée et qui n'a de sens que si réellement on a quelque chose à offrir en termes de prévention. Et ça, c'est pas souvent le cas.
Et c'est peut-être d'ailleurs ce haut niveau d'incertitude, Cynthia Fleury, qui fait que c'est un sujet qui n'est pas qu'un sujet uniquement médical, mais qui concerne finalement l'ensemble de la population et que ça rentre complètement dans le cadre des états généraux de la bioéthique.
Oui, c'est vrai, parce que en fait, c'est toute une fantasmatique par rapport à la question de la guérison, de la santé. Non pas éternel, mais en tout cas ce qui est normal, on veut le meilleur pour soi, on veut le meilleur pour ses enfants. Nous sommes dans un monde en plus où la question du rapport au corps, la question de la santé comme performance, être en bonne santé est à la fois un dû pour le citoyen, mais c'est aussi une manière d'affirmer sa puissance. C'est comme un avantage comparatif. Je vais être un petit peu désagréable, mais je veux dire que la santé est quelque chose de social aussi. C'est pas que quelque chose qui renvoie à une histoire propre. Après c'est clair que aujourd'hui la médecine génétique, c'est une médecine qui apporte sur des maladies qui sont précisément génétiques des réponses assez extraordinaires, parce qu'elle nomme enfin le problème, elles orientent considérablement la recherche. Derrière, il y a des investissements de façon lourde qui peuvent être portés par des politiques publiques, par d'autres types d'investissements. Et donc ça, c'est un enjeu absolument considérable. Ensuite, effectivement, il y a tout ce qui concerne ce mythe un peu de tout serait génétique, ce réductionnisme génétique. Et comme on vient de le dire, l'épigénétique fait que tel ou tel gène va s'exprimer ou pas, et que donc ça ne veut strictement rien dire de rentrer dans une espèce de folie génétique où, si tu me dis mon génome, je vais savoir à l'avance tout ce qui va se passer de ma vie. Donc on sort un peu de ça, mais encore, on a encore cette petite tendance un peu mythique, un peu délirante chez certaines personnes qui ne comprennent pas encore qu'est-ce que le génétique renvoie à un système de données à interpréter et qu'en aucun cas ça vient dire, si vous voulez, un programme figé de votre vie.
Vous êtes d'accord avec ça, Ségolène Aimé ?
Complètement. Les gens confondent complexité et complication. Si c'était compliqué, on arriverait un jour à s'en sortir, mais c'est pas compliqué, c'est complexe. C'est-à-dire que les gènes ont des interactions entre eux, ils ont des interactions avec l'environnement, l'expression des gènes varie au cours de la vie, on a des mutations qui arrivent tout au long de la vie après la fécondation. Donc le génome de nos cellules dans notre cerveau ou dans notre foie n'a pas la même composition, la même qualité que celle qu'on avait à l'origine dans l'œuf qui nous a produit. Donc, je veux dire, on a sursimplifié ces concepts.
Mais quand vous dites on a sursimplifié, qui a sursimplifié? C'est-à-dire quand vous dites finalement les gens ou tout le monde pense ça, est-ce que ça vient aussi? Est-ce qu'il y a une responsabilité aussi du milieu médical et pas seulement
énorme.
Du grand public?
Je dirais pas que le milieu médical, le milieu scientifique qui a survendu sa discipline. J'en parle vraiment très à l'aise parce que je suis généticienne, donc je dis mes confrères ont été très intelligents à survendre leur discipline pour avoir des crédits et avoir des laboratoires, etc. etc. Et puis, il y a eu vraiment un engouement, parce que c'est vrai que ça parle, si vous voulez, le livre de la vie, avoir accès comme ça au code qui nous a fait, ça fait rêver quelque part. Donc, je comprends très bien cet engouement. Mais en réalité, plus on sait qu'on ne sait pas.
Alors, par rapport justement à cet engouement, ça c'est une des questions qui peut être posée par rapport au test génétique. Est-ce qu'il faut permettre à chacun d'y répondre s'il le souhaite, c'est-à-dire de faire un test génétique? Aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qui est très encadré par la loi en France, Cynthia Fleury, puisque c'est uniquement à des fins médicales et de recherche scientifique. Mais on sait, par exemple, aux États-Unis, on peut souscrire à un test génétique. Et finalement, on pourrait se dire que ça relève d'une forme de liberté individuelle. Si j'ai envie de connaître, comme le disait Ségolène Aimé, le livre de ma vie. Pourquoi n'y aurais-je pas droit ?
Le problème, c'est que... Alors, la France est effectivement, comme souvent, les lois françaises sont souvent plus restrictives que d'autres pays. C'est la culture française, une culture forte de régulation et de tentative de venir déconstruire comme ça les fantasmes des uns et des autres. Si vous prenez 23andMe, par exemple, qui est un organisme qui vous propose, tout simplement, en envoyant un tout petit peu de salive, de vous donner votre génome. Et d'ailleurs, alors il y a plusieurs, quand on regarde les motivations de ceux qui font ça, il y a plusieurs motivations. Il y a d'abord la motivation génomique récréative. Tiens, j'ai envie d'avoir le séquençage de mon génome comme j'aurais un tableau de moi-même.
Voilà, ou un arbre généalogique.
Ou un arbre généalogique. Donc, d'avoir un petit peu, de savoir d'où je viens, connaître un peu mes racines, comme ça. C'est très elliptique. Hein. D'autres qui sont déjà dans une idée plus diagnostique, de savoir s'ils vont contacter telle ou telle maladie, tel ou tel pourcentage, sachant que tout ça n'est pas quand même d'une clarté infinie. Et d'ailleurs, quand vous faites le test de 23andMe, à chaque fois, on vient vous dire, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez la réponse à est-ce que ça, vous allez développer tel ou tel, est-ce que vous avez des chances de développer l'Alzheimer, est-ce que vous avez des chances de développer Parkinson, etc. Comme ça, on essaye de créer des paliers. Et puis, il y a ceux, de manière, et ça, c'est, on oublie ça, mais il y a ceux qui, ce qu'on appelle, pratiquent les révélations d'eux-mêmes, hein, le publicness, parce qu'ils considèrent que ça participe de la recherche. Ça participe à la recherche, ça fait partie du bien commun de donner en partage son génome pour venir alimenter des cohortes de génomes des populations, etc. etc. Donc vous voyez, là, c'est très... c'est pas que un problème de liberté individuelle. Je veux dire, pour certains, c'est aussi une liberté de participer du bien commun de la science. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais on voit là encore que le spectre des motivations est assez large.
Alors, parmi ces trois approches justement que vient de nous proposer Cynthia Fleury, est-ce que les trois pourraient justifier, selon vous, Ségolène Aimé, que l'on élargisse l'accès justement aux tests génétiques? Bon, la dimension récréative, on peut se dire, ça fait de mal à personne.
Oui. La dimension récréative, moi, j'ai aucune opposition à ça. Simplement, il faut communiquer sur le fait que ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça n'a absolument aucun intérêt au sens où ce qui est fourni par les laboratoires qui font ce type d'analyse, ce sont des tableaux avec votre sur-risque, votre sous-risque pour un certain nombre de traits, qui sont assez banaux. Et à la fin, si vous voulez, vous dites, vous avez 1,4 de votre facteur de risque pour le Parkinson, c'est 1,4. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 1% de risque, vous avez 1,4% de risque. Bon, qu'est-ce que ça vous fait, franchement, de savoir ça, à part vous inquiéter un tout petit peu? Ça vous multiplie par deux le risque d'Alzheimer. Bon, ben, je veux dire, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Donc,
Je vais peut-être regarder encore sur Internet et me dire, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour prévenir l'apparition d'Alzheimer.
Alors, si on avait la moindre possibilité de prévenir l'Alzheimer ou de vous traiter, ce test ferait partie du package qu'on vous donnerait en médecine. Donc, moi, je dis que la France a eu une approche très, très raisonnable ces 20 dernières années, de dire ce n'est pas anodin, on le sait que ce n'est pas anodin, ce type d'information. Si c'est utile, ça doit être offert par le système de santé et donc pris en charge, et on a d'excellentes consultations, on connaît la dimension psychologique de ces tests, on accompagne les gens, etc. On les accompagne après la révélation. Si ça n'a aucun intérêt, on ne rembourse pas, donc on ne prend pas en charge le système de santé et donc on enjoint les gens de ne pas le faire parce que ça n'a aucun intérêt. Mais de là à interdire de le faire, là je pense qu'on est allé trop loin parce qu'il n'y a pas de justification, sauf à dire ce que disent quand même beaucoup de collègues qui sont surchargés dans les consultations de génétique, c'est que les gens vont se faire des tests aux États-Unis et ensuite reviennent avec le résultat qu'ils ne savent pas interpréter dans les consultations de génétique pour se le faire expliquer. Donc il y a une petite incidente, si vous voulez, sur la consommation de soins. Mais pour moi, c'est marginal et donc je ne vois aucune raison de ne pas autoriser ça, sachant que pour autant, je veux dire, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien aujourd'hui. C'est juste ça qu'il faut,
acter. Moi, je dis que ça servira jamais à rien. Parce que dans les maladies communes, ça n'apportera jamais plus d'explications que ça ne peut en apporter. La génétique, la génomique, n'est qu'un facteur d'explication très faible par rapport au facteur d'environnement. Donc, il vaut mieux dire aux gens de pas trop manger, courir, bien respirer, etc., etc., que de se faire des tests génétiques.
Oui. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, mais c'est vrai que, vu qu'on considère, si vous voulez, que la science évolue, que au travers de... Je vous dis ce qui est du côté sociétal. Du côté sociétal, vous avez cette idée que, de fait, les interprétations génétiques sont elles-mêmes soumises à des évolutions et que des données qui sont, par exemple, quand on se pose la question de stocker un certain type de données, de les interpréter, on ne sait pas nécessairement comment les interpréter aujourd'hui. On saura peut-être les interpréter mieux demain. Et donc, ça veut dire, d'une certaine manière, que le séquençage de mon génome, demain, pourrait être interprété un tout petit peu différemment selon les données scientifiques du moment et qu'à ce moment-là, non pas que ça prédit, mais ça peut éventuellement m'aider à mieux orienter. En tout cas, c'est comme ça que ça peut être pensé. Mais ce n'est pas ce que vous, ce que vous pensez. Mais vous pensez que ça ne sert strictement à rien.
Ça ne servira jamais. Qu'est-ce qui vous fait être à ce point certaine que, disons, les informations qui seront délivrées par ces examens, par ces tests génétiques, ne pourront pas être davantage utiles dans le futur qu'ils ne le sont aujourd'hui?
Parce que, si vous voulez, les études sur la contribution de la génomique aux maladies communes, elles ont déjà été faites. On ne va pas découvrir qu'une maladie, l'hypertension artérielle est plus génétique qu'elle ne l'est actuellement dans les textes, dans les livres. Je veux dire, on sait que la plupart
on peut apprendre plus de choses de l'épigénétique. Ce qui peut venir,
oui, mais pour autant, transformer. Comme les facteurs déterminants sont des facteurs environnementaux, c'est sur cela qu'il faut travailler, non pas sur la génomique. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est continuer à investir dans la recherche, parce que la recherche, par définition, on ne sait jamais où ça va déboucher et les bonnes choses que ça peut apporter. Donc, éventuellement, ça pourra donner des pistes sur des traitements et des choses comme ça. Donc, moi, je suis pour investir massivement dans la recherche. Je dis que simplement que dans l'exercice de la médecine, c'est-à-dire dans le soin, on ne doit offrir que des tests validés et là où c'est réellement utile. Et pour le reste, ça ne doit pas être remboursé, mais ça peut être autorisé.
Alors, oui, je suis d'accord.
Justement, sur la question de l'investissement dans la recherche, il y a eu une émission, je vous laisserai, Cynthia Fleury. Il y a eu une émission, il n'y a pas très longtemps, de René Friedman, Matière à penser sur France Culture. René Friedman, qui est un acteur important aussi dans ces questions, qui est gynécologue, et qui recevait notamment un de vos confrères, Ségolène Aimé, français, Michel Wekmans, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le prononcer, qui est professeur de génétique humaine à Necker, et qui faisait part, lui, d'une inquiétude, qui disait: ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on évite la maladie, on a mis tellement de budget du côté de l'évitement, à travers justement les examens génétiques, que je crains qu'aujourd'hui, on ne mette pas assez d'argent du côté de la thérapie. Est-ce que ça pourrait aussi participer de la tendance que vous évoquiez tout à l'heure, Cynthia Fleury, c'est-à-dire à force de tellement vouloir maîtriser son corps, on en est à vouloir mettre à l'écart la maladie, et ce risque aussi qui serait justement de négliger peut-être la recherche pour traiter la maladie, et d'être essentiellement dans l'idée qu'on peut tout prévenir.
Alors, difficile de répondre à cette question. Ce qui est certain aujourd'hui, en tout cas ce qui est dit, et je ne sais pas si c'est spécialement lié sincèrement à la question de la médecine génomique, mais il y a un problème global de plus d'accès sur la thérapeutique, plus d'accès sur la clinique, plus d'accès sur le colloque singulier. Par exemple, on parle souvent de médecine personnalisée avec la médecine génomique, alors que c'est plutôt une médecine de précision, mais qui n'est pas nécessairement personnalisée au sens où on a dans l'idée de relation de personne à personne entre le médecin et moi-même. Non, vous êtes réduit à un certain type de données aussi, bon, donc ce qui n'est pas si simple. Donc aujourd'hui, on sait également que sur la question de la prévention, la question de la prévention, la France est assez faible. Hein, on a moins de 3% des dépenses publiques qui sont liées à la prévention. Donc tout ça fait que tout ce qui, en gros, a une vision beaucoup plus holistique de la santé, et non pas que techniciste et génomique, est en mal. En France, très clairement. Nous, si on a mis en place une chaire des humanités et corrélée à la santé, c'était parce que précisément, on voulait simplement rappeler cette chose, que une maladie n'est pas un sujet malade. Et que vous avez beau, et que en fait, on ne soigne jamais une maladie. On soigne toujours un sujet malade, ce qui est un tout petit peu différent.
Est-ce que les tests génétiques ne peuvent pas aider à avoir une approche un peu plus holistique?
Eh ben, ça dépend. Alors, si vous n'avez pas une approche réductionniste du génome, bien au contraire, ça sera de toute façon, encore une fois, l'ignorance n'a jamais été un facteur de liberté, si j'ose dire. La connaissance, c'est au contraire ce qui vient aider l'être humain à fabriquer de l'autodétermination, à être plus agent de sa vie, etc. Donc, bien au contraire, ça rendra la médecine plus humaine. Mais si vous êtes dans des compréhensions, comme on a dit tout à l'heure, un peu de ce qu'est la génétique et de penser qu'elle inscrit votre vie avant l'heure et que vous avez un phénomène de télescopage du temps, parce que quand on vous fait une annonce, à l'inverse, non.
Est-ce que les examens génétiques, aujourd'hui, Ségolène Aimé, permettent d'avoir une meilleure politique de prévention sanitaire que lorsqu'il n'existait pas? Et est-ce que la loi actuelle, la loi française, puisque ça fait aussi partie, bien entendu, hein, des enjeux de ces états généraux de la bioéthique, de voir s'il y a nécessité ou pas de modifier notamment la loi sur ce sujet, est-ce que la loi encadre correctement, finalement, l'usage qui peut être fait de ces tests génétiques?
Moi, je trouve que le système français est absolument remarquable. Donc moi je suis une fan de l'encadrement des tests génétiques en France. On est le seul pays au monde à avoir des lois de bioéthique.
Même si vous nous avez dit que vous étiez contre l'interdiction du recours aux tests.
Non, je dis on pourrait très bien avoir le même système d'encadrement pour tout ce qui est d'intérêt médical. Et tout ce qui n'a pas d'intérêt médical aux yeux de la santé publique peut être libéralisé, mais à ce moment-là, les gens payent de leur poche et voilà, ils s'offrent ça comme ils s'offriraient.
Ce qu'ils font déjà. Hein.
Voilà, ce qu'ils font
une très petite
fraction des gens. Vous savez, c'est extrêmement marginal, extrêmement marginal la consommation de tests, car en gros, les gens, ils n'ont pas envie d'avoir de mauvaises nouvelles. Oui. Or, c'est en gros que les mauvaises nouvelles que vous allez avoir. Donc, ma prédiction, c'est qu'il n'y aura jamais d'engouement pour ce genre de choses. En revanche, il y a une forte sollicitation mercantile pour consommer ces tests, mais ça n'a rien à voir avec vraiment le souhait profond des gens. Donc je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt pour ça dans la population générale, et en tous les cas en France, je n'en observe pas.
Vous dites donc que vous êtes une fan de la loi actuelle, est-ce que c'est aussi votre cas, Cynthia Fleury? Peut-être que comme membre du CCNE, je ne sais pas si vous avez la possibilité
Vous avez répondu à la question.
prononcer voilà, plus non. précisément.
Comme membre du CCNE, je n'ai absolument pas la possibilité de me prononcer. Donc voilà, le CCNE va rendre un rapport prochainement et on verra précisément parce que, voilà, quand il va rendre son rapport, il va rendre un rapport par rapport à tout toutes les auditions qu'il a mises en place, c'est pas un avis là pour le coup qui va être donné par le CCNE, ce n'était pas et donc on verra et je dirais que ça viendra dire ce que pensent les sociétés savantes, les associations de patients parce que c'est aussi très important. Les associations de patients sont très, elles défendent quand même assez grandement le principe d'une recherche justement sur des questions de médecine génomique. Et puis tous les autres grands corps qui vont venir effectivement et que nous avons auditionnés ces derniers 6 mois.
Sur les maladies qu'on recherche, sur les anomalies qu'on recherche, Ségolène Aimé, la loi aujourd'hui, elle est quand même assez restrictive. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt peut-être à élargir le champ de la recherche ou en tout cas à permettre, par exemple, d'utiliser des données qu'on va découvrir un peu par hasard en faisant des tests génétiques? J'ai cru comprendre que ce n'était pas le cas aujourd'hui.
Écoutez, là, vous touchez à un autre sujet qui, moi, me tient énormément au cœur, c'est la confusion entre ce qui est soin et ce qui est recherche. En recherche, on peut tout faire et on doit tout faire. On doit explorer toutes les pistes, on doit faire en sorte qu'on apprenne et qu'on avance dans les connaissances. Il faut construire des bases de données avec toutes ces séquences génétiques, avec ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire l'aspect qu'ont les gens et ce qu'ils vivent et ce qu'ils développent comme maladie, etc., pour apprendre plus sur le rôle des gènes. Tout ça, c'est de la recherche. Et les gens peuvent consentir à la recherche. Il n'y a donc pas d'obstacle à faire ça. Et la loi française n'interdit aucune recherche. Donc, on est dans un système complètement libre. Après ça, il y a le soin, c'est-à-dire de ces connaissances-là, lesquelles on fait usage dans le cadre de la médecine libérale et hospitalière. Et c'est là que la loi française est plus restrictive en disant, quand on offre des tests à des gens, il faut savoir que le résultat peut être violent et qu'il faut donc les aider à se préparer et consentir aux tests et savoir ce qu'ils peuvent obtenir comme résultat et les conséquences que ça aura pour eux. Il faut qu'ils aient anticipé ça, etc. Et il faut que ça soit fait par des professionnels qui sont aguerris, qui ont été formés à ça, parce que c'est compliqué à faire, je peux vous garantir, pour avoir fait nombre de consultations de génétique. Donc, je trouve que ce cadre-là, il n'a pas à changer. Il y a vraiment 2 champs différents, la recherche et le soin. Le soin doit être encadré, la recherche, elle doit être complètement libre.
Cynthia Fleury.
Oui, moi je partage assez cette différenciation, tout simplement parce que voilà, la recherche elle est fondamentale, elle est avec tout un champ des possibles, et puis surtout voilà, elle n'est pas en dernière instance, en face à face avec le patient. On sait très bien que l'impact de l'annonce n'est absolument pas neutre, et donc vous ne pouvez pas, si vous voulez, à un moment donné, fonctionner avec le même niveau d'incertitude dans le monde du soin et dans le monde de la recherche. L'incertitude dans le monde de la recherche, je dirais qu'elle est presque épistémique, c'est-à-dire qu'au contraire, plus il y a d'incertitude, plus il y a de recherche, et d'une certaine manière, il n'y a absolument aucun souci. L'incertitude dans le milieu du soin, elle peut détruire fondamentalement des vies, des sentiments de sa propre existence, qui n'est pas forcément la même chose. Et à partir du moment où vous avez une annonce, mais que vous n'avez pas la solution, ce qui est quand même très souvent le cas, vous rentrez dans un télescopage, encore une fois, du temps, où vous n'êtes pas malade, mais vous savez déjà malade, et ça, c'est loin d'être simple.
Mais alors, prenons un cas concret, le cas d'un projet parental. On va avoir un enfant, et puis il y a 2 formes de diagnostic, si j'ai bien révisé la question, le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire, dans le cadre d'une fécondation in vitro. Là, on est dans le cadre du soin, pas de la recherche.
Oui.
Mais alors, dans ce cas-là, Ségolène Aimé, je vous pose la même question, Cynthia Fleury. C'est-à-dire, est-ce que là, il faut rester dans ce que dit la loi, c'est-à-dire ne chercher que certaines maladies, mais est-ce qu'il n'y en a pas qui sont des maladies qu'on peut soigner, qu'on pourrait découvrir en élargissant le champ de l'investigation, qu'on pourrait peut-être soigner d'ailleurs pendant la grossesse, par exemple, et qui qui mériterait justement d'être aussi prise en compte aujourd'hui dans ce qu'accepte la loi, Ségolène Aimé ?
Alors, ça, on n'en a pas encore parlé, du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire. Donc, on va commencer avec le diagnostic prénatal. Si on a accès aux cellules du fœtus, qu'on peut maintenant faire même avec une simple prise de sang chez la mère, on commence à être assez outillé technologiquement pour pouvoir faire des analyses sur de l'ADN qui est du fœtus dans le sang maternel, on peut effectivement imaginer qu'on va assez rapidement pouvoir faire non pas un test sur un seul gène, mais sur plusieurs, et on pourrait cibler des gènes majeurs dont on sait, quand ils sont mutés, qu'ils conduisent nécessairement à des maladies très graves. On pourrait s'entendre là-dessus. Et moi, personnellement, je suis tout à fait en faveur de ce genre de choses. Je ne vois pas pourquoi, si les gens le souhaitent, il n'est pas accès à l'ensemble des résultats possibles en diagnostic prénatal. À partir du moment où on recherche une chose, on peut en rechercher 5, 10, 15, 20, 50, 100. Il n'y a pas énormément de maladies pour lesquelles on a une certitude.
Oui, c'est ça.
Voilà, en ayant toujours uniquement en tête les choses pour lesquelles ce sont des maladies très graves et pour lesquelles la possibilité d'une interruption de grossesse peut se poser. Donc on est dans une configuration qu'on connaît assez bien actuellement. Actuellement, le soin in utero, c'est très très marginal. Il y a très très peu de choses qu'on peut faire. Donc au fur et à mesure qu'on aurait des possibilités de traitement très précoce ou in utero, on pourrait élargir cette liste. Donc moi, je suis contre cet aspect de la loi qui dit qu'on a le droit de rechercher que la maladie en cause dans la famille et rien d'autre. Je ne vois pas pourquoi on ne rechercherait pas un certain nombre d'autres maladies génétiques aussi qui sont très graves. Mais on ne va pas les rechercher. Le facteur de susceptibilité à développer, je vous dis, l'hypertension artérielle ou la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas le problème chez le fœtus. Donc, il faut constamment garder quand même le bon sens et se dire qu'on n'agit que dans l'intérêt immédiat de la personne qu'on a en face de soi, du fœtus ou de ses parents.
Le niveau de gravité de la maladie, ça peut être le bon curseur, disons.
Oui, c'est ça. Le problème, si vous voulez, c'est que tout ça va bouger. Bouger selon, je dirais, la culture de la société, selon, bien évidemment, les niveaux de réponse que la science va mettre en place. Donc aujourd'hui, on est plutôt assez restreint, c'est vrai, toujours dans cette approche très normative française. C'est vrai qu'on pourrait l'ouvrir de manière un tout petit peu plus forte, sans que cela ne soit délirant. Mais c'est toujours, on a toujours cet argument qui pourtant ne tient à rien, de la pente glissante, en disant bah non, si on ouvre, ça y est, alors on va faire, ça va être trop, etc. Alors que non, il y a un bon sens. Et effectivement, ce bon sens, c'est un d'abord aussi les questions de mutualisation et de solidarité nationale, de voir aussi, parce que tout ça a un coût, donc d'interroger ce coût, et puis après de vérifier le bénéfice sur les patients, et si ce bénéfice est réel, bien évidemment qu'il faut aller dans ce sens-là.
Si le bénéfice est réel, mais si le bénéfice est réel pour qui ? C'est-à-dire que il y a deux types de décisions qui peuvent être prises, par exemple dans le cadre d'un diagnostic prénatal. Enfin, faisons peut-être un petit peu de pas de science-fiction, mais si, c'est-à-dire il y a deux types de décisions. Ça peut être soit interrompre une grossesse parce que c'est une maladie grave qu'on considère comme incurable, en tout cas extrêmement invalidante.
On ne sait pas traiter.
Et puis on peut aussi diagnostiquer une maladie qui elle est curable. Et là, ça peut être intéressant, c'est-à-dire qu'elle est peut-être moins grave, mais qu'on va pouvoir traiter suffisamment tôt. Oui. Donc la décision ne sera pas la même, Cynthia Fleury.
Tout à fait, la décision ne sera pas la même, mais au moins la décision, normalement, sera prise avec un consentement éclairé, ce qui est normalement la base de ce que doit aussi apporter la médecine. C'est-à-dire qu'on est là pour donner, encore une fois, aux patients le plus d'informations possibles, viables, grâce auquel il va pouvoir construire sa vie et avoir un rapport à sa santé plus efficace. Donc, que ce soit l'un ou l'autre cas, ce sont des choix de vie qui vont être différents, mais au minimum qui seront les plus, qui auront bénéficié des connaissances scientifiques les plus adaptées à ce moment T.
Ça se passe toujours de cette manière aujourd'hui, c'est Ségolène Aimé, c'est-à-dire dans un consentement absolument éclairé, dans l'état des connaissances du moment, bien sûr.
Actuellement, le diagnostic prénatal ne se fait que sur une seule pathologie, qui est la pathologie pour laquelle le couple est à haut risque et qu'on souhaite contrôler. Donc, c'est plus simple d'informer les gens parce qu'il n'y a qu'une seule maladie à discuter. Et avec ces options qui s'offrent à eux, l'interruption médicale de grossesse, la préparation de la naissance psychologique et médicale quelquefois, quand ils souhaitent poursuivre la grossesse, ou le traitement in utero qui est beaucoup plus rare. Voilà. Si on se mettait à faire des diagnostics hors du contexte de la maladie de la famille, on en rentre dans ce qu'on appelle du dépistage. Là, on dépiste au sens où on n'a pas d'indication qu'il y a de risque particulier. On irait chercher des choses qui n'ont pas de raison particulière d'atteindre ce couple. Et à ce moment-là, dans le dépistage, on a aussi une très longue expérience. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a du dépistage néonatal au moment de la naissance. Et on le fait que pour des pathologies où réellement, là aussi, on a bien étudié la question et on sait que ça vaut le coup, qu'on a des très bonnes raisons de bien apprécier la gravité, etc. Donc, ça serait une offre de soins nouvelle. Voilà, une offre de soins nouvelle. Et c'est imaginable qu'on évolue comme ça. Mais de toute façon, ça sera un petit nombre de maladies qui feront consensus sur le fait que ça vaut le coup de les dépister en prénatal.
C'est assez rassurant par rapport au risque de dérive eugéniste. Même si on n'a pas prononcé ce terme-là, mais évidemment, tout le monde y pense. Qu'est-ce qui fait, finalement, Cynthia Fleury, que vous misez à ce point sur le bon sens? C'est-à-dire, c'est parce que jusqu'à présent, on n'a pas été confronté à ce type de dérive-là que...
Écoutez, c'est vrai que là, on rentre dans des choses qui sont plus de l'ordre de la science-fiction ou de la fantasmatique. On a toujours cette crainte.
À partir du moment où ça peut arriver.
Voilà,
ça peut arriver.
Exactement, non mais tout à fait. À partir du moment où ça peut arriver, la question se pose. De fait, il y a énormément de possibilités de garde-fous, de réglementation. Après, si vous voulez, il y a des pays sur la question du dépistage qui sont pas comme la France. Hein. Et je pense à Israël qui va plutôt inciter les couples à aller se faire dépister sur non pas 5 maladies, mais 8, je les ai plus.
Oui, c'est 8 sur des milliers et des milliers de
c'est
maladies.
C'est 8 sur des milliers. Mais on voit très bien que là aussi, c'est un problème de convention. C'est un problème de convention et que à partir de ce moment-là, encore une fois, c'est pas de l'eugénisme, mais oui, la question du dépistage préconceptionnel, etc., va rentrer dans nos mœurs, à la fois dans nos mœurs sociétales et en même temps dans la réalité scientifique qui est la nôtre. Et oui, nous allons construire une régulation ad hoc. La plus idoine possible. Mais encore une fois, est-ce que je dois ici signer sur le fait qu'il n'y aura jamais aucune dérive? Sincèrement, j'en sais rien. Je pense que non.
Il y a un autre type de dérive, et il nous reste plus beaucoup de temps pour l'évoquer, qui peut être celle de l'utilisation des données, puisqu'il y a énormément d'informations qui sont fournies par ces examens.
Là, il peut y avoir des dérives.
Voilà. Et c'est-à-dire, est-ce que la loi, aujourd'hui, est suffisamment sécurisante pour empêcher que nos données soient captées, soient utilisées? Je pense par exemple quand on passe un contrat d'assurance, qu'on dise vu que vous avez vous tel génome, vous allez payer plus cher que votre voisin.
Écoutez, aujourd'hui on a une des lois françaises et même un cadre européen de protection des données personnelles assez fort, peut-être le plus fort même à l'international. Ça c'est vrai. Maintenant, c'est pas si simple parce que les gros data centers et les gros propriétaires de données, c'est ni la France, ni l'Union européenne, mais ce sont des entités, des multinationales qui n'ont aucune. En tout cas, la déontologie scientifique de protection des données n'est pas leur culture de base, voire leur culture du tout. Et donc, oui, là, il y a des dérives, même si, bien évidemment, chacun de dire « mais non, pas du tout », mais oui, la convergence des données, la possibilité d'une discrimination, c'est tout à fait possible.
C'est une question à laquelle vous êtes sensible, Ségolène Aimé ?
Je suis très sensible à ça, mais c'est aussi rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que les assureurs et les employeurs ont toujours cherché à savoir le plus possible sur les individus qu'ils assuraient ou qu'ils employaient, et que maintenant, ils font ça en utilisant les réseaux sociaux pour aller débusquer des tas d'informations sur les gens.
D'ailleurs, quand on souscrit une assurance pour un prêt immobilier, par exemple, on passe une visite médicale, donc il y a déjà des données médicales qui sont fournies. L'examen génétique.
Oui, pour l'instant, ils n'ont pas le droit d'utiliser cette information-là, mais indirectement, ils peuvent le faire, puisqu'ils peuvent vous poser des questions sur des maladies génétiques dans votre famille, et vous n'avez pas le droit de mentir, ou sur vous-même. même.
Exactement, ils vous interrogent aussi sur la parentèle.
En réalité, pour moi, c'est tout à fait un faux problème.
Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux d'avoir participé à cette discussion. Ségolène Aimé et Cynthia Fleury, discussion que vous pourrez retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre, avec demain, dans la matinée, des extraits vidéo de cette discussion. Vous pouvez également nous écrire, toujours sur le même site, et télécharger l'émission. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Pascal Baudin. Dans un instant, vous retrouverez la dispute avec Arnaud Laporte pour parler de théâtre ce soir.
Un instant de 3 minutes. Effectivement, on parlera de l'éveil du printemps. On va parler de paroles de Fralib et nous parlerons d'un pollo rojo. Dans du grain à moudre, demain Hervé Garlette.
Et bien demain, vous savez que c'est un jour chômé. Et bien on se demandera, puisque c'est le 1er mai, si on ne serait pas mieux au bureau.
Ouais, mais nous on fera de la musique, hein, comme tous les mardis. Mais pour l'heure, il est sur France Culture, 19h, l'heure de retrouver Aurélie Kiefer pour les titres de l'actualité.